Bonsoir à tous. Seigneur, je te prie maintenant de vraiment disposer nos cœurs et que tu parles au travers de ma bouche, que tu me permettes de ne pas écorcher la vérité de ta parole, mais que vraiment tu puisses, Seigneur mon Dieu, œuvrer ce soir maintenant au travers de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce soir j'avais à cœur de vous partager, alors c'est quelque chose qui me travaille depuis quelques temps à cause de la chaleur. Voilà, je ne sais pas si vous, vous supportez la chaleur, mais j'ai beau avoir des origines des îles paradisiaques, d'outre-mer, mais j'ai du mal à supporter la chaleur. Et en fait, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais réjouis-toi, Paco, parce que dans le désert, tu n'imagines pas comment c'est pire. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ça va, ça va, je peux supporter. Et du coup, j'ai pensé au désert. Alors, j'avais déjà apporté un dimanche, donc... sur cette notion-là, que Dieu ouvre des oasis dans nos déserts. Et donc, j'aimerais aborder cette notion-là de désert. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la Bible nous en parle beaucoup. Alors, je ne vais pas développer le désert, mais je vais vous amener quelque part, à un endroit où Jésus lui-même a été dans plusieurs déserts. Mais il a traversé un désert en particulier, dont il était nécessaire qu'il le traverse. S'il ne le faisait pas, je pense qu'aucun d'entre nous ne serait là aujourd'hui. Et le titre de mon partage ce soir, c'est « Pleinement homme pour nous sauver ». Et si vous avez vos Bibles, ou si vous voulez allumer votre Bible, parce qu'on peut le faire comme ça maintenant, Luc chapitre 4 et versets 1 à 13. Donc Luc chapitre 4, versets 1 à 13, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vous fais la lecture. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. » Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu, après l'avoir tenté de toutes ses manières. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus avait environ 30 ans au moment de son baptême. Donc on revient un chapitre avant, Luc chapitre 3 au verset 23. Il nous est dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc. Et immédiatement après, il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc c'était une étape qui était nécessaire dans la venue du Messie. Et le but, en tout cas, de ce que je peux relever par rapport à ce texte, c'était que Jésus est à la fois pleinement Dieu, mais à la fois pleinement homme. Et en tant qu'être humain, il était nécessaire que lui aussi connaisse, quelque part, les tentations que nous, êtres humains, nous pouvons vivre, nous pouvons expérimenter. Et en connaissant la tentation à laquelle nous sommes confrontés, Jésus avait donc toute la légitimité pour nous comprendre. Il sait ce que nous pouvons ressentir, il sait ce que nous pouvons vivre, traverser dans nos tentations et dans nos épreuves. Et pourquoi est-ce que Jésus est donc l'exemple parfait pour nous ? C'est que nous pouvons nous appuyer sur lui sans aucun doute, c'est parce qu'il n'a pas succombé justement aux tentations du diable, l'adversaire qui divise et qui détruit. Jésus a triomphé des tentations du diable et de ce fait, Jésus est donc sans péché. Il est valide pour Dieu, pour qu'il soit offert en sacrifice pour le pardon de toute l'humanité. Et pour que le sacrifice permette notamment ce pardon des fautes et des péchés de l'humanité, il devait être sans tache, autrement dit sans péché. Et je dirais que là où plusieurs d'entre nous eh bien, peuvent faillir, Jésus, lui, n'a jamais faibli. Au contraire, il a été plus fort que Satan. Dans Hébreux chapitre 4 et au verset 14 à 16, il nous est dit, je vous ai mis la traduction en parole vivante, « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre, c'est éminent, qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. À tout égard, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Amen. » Jésus est donc la personne, je dirais que c'était vraiment la personne qui nous comprend le mieux dans nos épreuves. Et comme il n'a pas péché, eh bien on peut vraiment lui faire confiance. Jésus a été tenté comme nous. Hébreux chapitre 2, au verset 18, il nous est dit, toujours traduction parole vivante, « Parce qu'il a subi lui-même la tentation, il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. Ayant lui-même souffert dans l'épreuve, il est capable d'aider ceux qui sont éprouvés par la souffrance. Amen. » Et ça, c'est une parole que nous devons saisir, la graver dans notre cœur. Parce que notre foi, elle repose sur qui ? Elle repose sur Jésus-Christ. Jésus a été tenté, Jésus a souffert. Jésus est la personne qui nous comprend le mieux dans tout le cheminement que nous avons sur cette terre, notamment dans les situations compliquées et les souffrances que nous pouvons éprouver. Et nous pouvons véritablement lui faire confiance, lui ouvrir notre cœur, lui partager ce que nous ressentons, parce qu'il nous comprend. Jésus n'est pas assis à la droite du Père, en train de nous regarder passivement. Paul dira dans Romains chapitre 8, au verset 34, que Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, mais il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui doit réjouir notre cœur. Jésus est non seulement assis à la droite du Père, il nous voit, il voit comment nous traversons les situations de vie, mais en plus, il intercède pour nous. Gloire à Jésus. Lorsque les épreuves et les tentations nous assaillent, ne fuyons pas Dieu pour nous cacher loin de lui ou derrière de mauvaises pensées ou de mauvaises choses, mais au contraire, courons vers Jésus comme l'a dit, je crois, Simon dans sa prière, que nos regards soient toujours focalisés et bien sûr Dieu, sur la personne de Jésus. Lui qui connaît toutes choses, qui saura nous secourir au bon moment. Faisons-le avec assurance, mais aussi avec humilité. Vous savez que la parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et parfois, il faut faire preuve d'humilité, eh bien, pour reconnaître des fois ce qui ne va pas dans notre cœur devant Dieu. Si Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté, c'est parce que Dieu le voulait. C'était dans le plan de Dieu, c'était dans sa volonté. Et je me suis dit, mais Jésus, il aurait très bien pu refuser ou même partir du désert. Il en avait la possibilité. Il en avait le pouvoir, mais Jésus n'a pas cherché à faire sa volonté, mais toujours à faire la volonté de son Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Peu importe les circonstances, je choisis de mettre ma confiance en toi seul. Dieu a permis que Jésus soit tenté dans le désert pour nous, pour que nous puissions avoir l'assurance d'avoir un souverain sacrificateur capable de compatir à toutes nos faiblesses. Avant d'arriver dans le désert, souvenez-vous, pendant le baptême de Jésus, le ciel va s'ouvrir, il y a une voix qui va se faire entendre. Luc chapitre 3, versets 21 et 22, il nous est dit « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Amen. » Alors lorsque nous sommes confrontés à des tentations, à des épreuves, eh bien souvenons-nous de ce que Dieu a dit au sujet de son Fils, parce qu'il le dit aussi à nous-mêmes, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes ses enfants. Et parce que Dieu nous aime et parce qu'il nous affectionne, alors nous avons de la valeur à ses yeux et il saura prendre soin de nous, peu importe les situations que nous vivons. Amen. Alors, je n'ai pas développé, mais ici, on a affaire à un lieu quand même qui est désertique. Jésus, il est amené par le Saint-Esprit dans un lieu désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et ce qui est étonnant, eh bien, c'est que Jésus, il a été tenté dans un désert. Et je me suis dit, mais il n'a pas été tenté dans un endroit où règne le péché, où règne, je ne sais pas, la débauche, mais c'est dans un désert. Un désert, c'est un lieu pauvre, c'est un lieu sec, aride, où il y a très peu de végétation. En tout cas, elle a du mal à se développer. Et la chaleur est tellement extrême que le peu d'eau qui pourrait s'y trouver, eh bien, s'évapore. Et un des seuls moyens qui peut rendre possible, eh bien, les oasis que l'on trouve dans certains déserts, ce sont dus à des moyens humains ou bien à de l'eau vraiment dans les profondeurs de la terre, dans les nappes phréatiques. Et je dirais que c'est donc un milieu hostile et difficilement agréable pour y vivre. Le mot désert en grec, c'est eremos, et en fait, ça veut dire solitaire. Ça veut dire seul, désolé, inhabité. Autrement dit, selon la Bible, le désert n'est pas seulement un lieu géographique, avec des températures extrêmes, mais c'est aussi un lieu où l'on est seul, où l'on est solitaire, quelque part livré à soi-même. C'est un lieu où l'on ne peut que compter sur soi-même, mais on est très vite limité, ou alors on peut compter sur Dieu. C'est un lieu où Dieu veut se révéler pour nous former, pour nous amener à être aussi à son écoute. Ce sont des lieux de silence. Et Jésus se retirait notamment souvent soit dans des montagnes ou dans des déserts pour être à l'écoute de son Père et pour recevoir de Dieu. Et parfois, le Seigneur permet que nous traversions aussi des déserts, mais sachant dans ces déserts, eh bien, nous positionner aussi à l'écoute de Dieu, de chercher à comprendre ce que, eh bien, Dieu veut nous apprendre dans ces déserts que nous traversons. Ça peut être une situation difficile, compliquée, mais de toujours demander à Dieu la sagesse. Moi, j'aime bien ce que Jacques y dit, parce que Jacques y dit réjouissez-vous dans les difficultés, en gros, dans les moments difficiles que vous vivez. Et ce n'est pas le fait de se réjouir parce que ça nous fait mal, c'est de se réjouir. Pourquoi? Parce que, eh bien, les épreuves que l'on traverse nous apprennent des leçons. Et justement, après, Jacques, il va parler de la sagesse. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous vivez, eh bien, demandez à Dieu la sagesse pour qu'il vous l'accorde. Et Dieu la donne humblement à ceux qui la demandent. Et en comprenant ça, eh bien, en fait, Jacques, ce qu'il impulse dans sa lettre, c'est que toute forme d'épreuve que l'on traverse, si l'on cherche la sagesse de Dieu, ça apporte, eh bien, quelque chose de bénéfique en nous. Et on doit se rendre quelque part joyeux, parce que ça va venir édifier quoi? Notre foi. Et la foi, elle ne grandit que quand elle est éprouvée. Comme un muscle. Si elle n'est pas éprouvée, la foi ne grandit pas. Alors, on doit vraiment, eh bien, prendre conscience aussi de certains déserts que nous vivons dans nos vies, et de considérer aussi, eh bien, cette notion-là d'être à l'écoute de Dieu, demander sa sagesse pour comprendre ce que nous vivons. Maintenant, j'aimerais venir sur, eh bien, les tentations de Jésus, parce que c'est ça qui m'intéresse ce soir. Et là, j'ai noté juste une dégradation dans les tentations, parce qu'en fait, on remarque que la première tentation, première tentative du diable, c'était quelque part quelque chose de terrestre. On est à terre, il demande à Jésus de prendre des pierres, de les transformer en pain pour qu'il mange. Le deuxième est selon le texte que l'on prend, parce que moi j'ai pris Luc, mais Matthieu, par exemple, ne donne pas dans le même ordre les tentations de Jésus. Il va prendre en deuxième tentation le fait de sauter du temple, voilà, je cherchais le mot, du temple. Et puis la troisième, ça va être je t'offre tous les royaumes, prosterne-toi devant moi. Mais Luc, en fait, il met dans cet ordre-là, donc d'abord les pierres qui se transforment en pain. Ensuite, il amène Jésus sur les hautes montagnes. Donc là, on commence à passer à un niveau supérieur. Et jusqu'à arriver donc au temple, où il demande à Jésus, eh bien, saute, parce que les anges de Dieu viendront te protéger. Et donc, première tentation ici, moi j'ai noté la convoitise de la chair. Le diable, voici ce que le texte nous dit. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Pour tenter Jésus, le diable ne s'en prend pas. Alors, il l'utilise, je dirais, mais il ne s'en prend pas forcément à son identité ou à son statut de fils de Dieu, même s'il commence par si tu es fils de Dieu. En fait, il se sert de son identité pour pousser Jésus à utiliser son pouvoir pour répondre à un besoin physique qui était là complètement évident sur le moment, c'est la faim. Le texte nous dit qu'après ces 40 jours de jeûne, Jésus avait faim. Jésus venait de jeûner. Et humainement parlant, eh bien, ça creuse l'estomac 40 jours de jeûne, je pense. J'ai jamais fait, mais je pense que ça doit creuser. Donc Jésus avait très faim, et rappelons-nous encore qu'il était pleinement homme. Jésus était aussi pleinement Dieu, et il avait la possibilité, quelque part, de prendre ces pierres, de les changer en pain. Mais ça n'aurait pas été, et ça n'aurait pas été difficile pour Jésus de le faire. Et ça aurait été, je dirais, quelque chose de légitime, d'acceptable, parce que ben, sur le fait qu'il a faim, quelque part, il transforme des pierres pour manger, ça répond voilà, peut-être à son besoin. Mais en fait, les paroles de Satan avaient pour objectif de pousser Jésus à agir en démontrant donc sa puissance divine, parce qu'il était pleinement Dieu, pleinement homme, et en tirant profit eh bien, du plan parfait de Dieu. Autrement dit, pour le faire sortir du plan que Dieu avait prévu. Il fallait qu'il soit sans tâche, il fallait qu'il soit sans péché. Il ne fallait absolument pas que Jésus eh bien, succombe aux tentations du diable. Et souvenez-vous, Jésus devait être sans péché pour accomplir le plan parfait de Dieu. Si Jésus avait changé ses pierres en pain pour nourrir sa propre chair, cela aurait été comme un acte allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ça m'a fait penser à ce qu'on dit des fois, la fin justifie les moyens. Alors je sais, ça ne s'écrit pas pareil, c'est la fin F-I-N, pas la fin F-I-M. Mais en fait, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire parvenir à un résultat positif ou atteindre un but. Finalement, peu importe les moyens, qu'ils soient condamnables ou pas, et qu'on utilise. Et Jésus savait que le plan de Dieu était eh bien, qu'il traverse ce désert pour être tenté par le diable. C'était donc une étape nécessaire et il n'a pas choisi de succomber aux paroles du diable pour satisfaire sa faim. Il s'est appuyé sur Dieu et particulièrement sur la parole de Dieu. Cette première tentation correspond donc à la convoitise de la chair et on lit dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17, vous verrez que ça fait vraiment écho à ce texte. Jean dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. » Et si l'on remonte un peu le temps, la convoitise de la chair eh bien, est présente depuis la création. Et c'est ce qui a causé en fait, la chute d'Adam et Ève. Satan avait quelque part réussi avec Adam et Ève. Alors pourquoi pas tester une deuxième fois avec Jésus, on ne sait jamais. Genèse chapitre 3, verset 6, nous est dit, traduction en second 19-10, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Ève et Adam auraient pu manger un autre fruit que le fruit de cet arbre. Et je me suis dit, mais en fait, ils passaient certainement devant cet arbre depuis je ne sais pas combien de temps. Mais jamais ils ont eu ce désir de le manger, le fruit de cet arbre. Et il a fallu que le serpent arrive par de petites paroles, de petits mots, eh bien, que cela commence à créer quelque part une convoitise, un désir. Et parfois, la tentation de pécher ne tient qu'à une simple parole, de se mettre à avoir de la haine contre quelqu'un, de médire, de tomber dans les critiques, dans toutes sortes d'animosités, etc. Et je crois que l'on ne doit pas sous-estimer les attaques du diable, parce que la vérité, c'est que le diable, il ne nous aime pas. C'est vrai, hein, je ne dis pas quelque chose d'incroyable, mais le diable ne nous aime pas. Il a très peu d'estime pour nous. Et en fait, on comprend ça lorsqu'on lit le texte de Job. Vous savez, Job, Dieu va dire à Satan, il va dire, est-ce que tu vois mon serviteur Job ? As-tu vu mon serviteur ? C'est un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu. Et en fait, on lit la réponse de Satan. Il va dire, Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et quelque part, le fruit défendu que vit Ève, eh bien, à ce moment-là, était bon à manger. Tout comme transformer ses pierres en pain, dont Jésus avait la capacité de le faire, était tentant. Mais à l'inverse d'Adam et Ève, Jésus résista au diable. Comment ? Eh bien, comme Paul le dit, avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Jésus n'a pas usé de son pouvoir divin, il n'a pas fait appel à une myriade d'anges ou de séraphins, mais il a fait appel à la parole de Dieu. Il s'est servi de la parole de Dieu. Il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Parole qui fait référence évidemment à la manne que Dieu eh bien, envoya au peuple d'Israël dans le désert. Et malheureusement, à un moment donné, ils se sont plaints de Dieu. Ils s'en plaignent à Moïse parce qu'ils en avaient marre. Et pour vaincre, je dirais, des attaques spirituelles, eh bien, ne craignons pas d'utiliser eh bien, notre seule arme spirituelle, offensive. Parce que dans tout l'équipement, toute cette armure, ces équipements eh bien, spirituels que Paul évoque dans Romains, eh bien, il n'y a que l'épée de l'esprit qui est une arme offensive. L'épée de l'esprit. Les autres armes sont, je dirais peut-être, défensives. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures pour le zèle d'annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi et le casque du salut. Et je dirais que plus nous connaîtrons la parole de Dieu, plus nous pourrons affronter les tentations et les épreuves que nous subirons. Nourrir notre âme de la parole de Dieu, c'est la lire, c'est la méditer, c'est aussi l'apprendre. Il y a des versets, des proverbes que l'on peut apprendre par cœur. Et quelque part, eh bien, de se le redire sans cesse à notre âme, de rappeler à notre âme ce que la parole de Dieu eh bien, nous dit. Et bien évidemment, comme Jacques le dit, il ne faut pas simplement lire la parole de Dieu, mais il faut aussi la mettre en pratique. La deuxième tentation que l'on voit au travers de Jésus, c'est la convoitise des yeux. Et là, on monte, on prend de la hauteur. En tout cas, Satan prend Jésus et prend de la hauteur. Et le texte nous dit, le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Le diable, ici, en met plein la vue à Jésus. C'est clairement ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Ce que nous rappelle Jean, eh bien, j'ai juste souligné donc le verset 16, la convoitise des yeux. Et quelque part, en fait, ce que Satan est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de prendre Jésus et puis lui dire, bah, tu vois, tout ce qui est là, c'est à moi. Et tu peux les avoir. Et si tu les veux, et c'est moi qui décide à qui je les donne. C'est comme ça qu'il parle à Jésus. Et il lui dit, mais si tu veux que je te donne toutes ces choses-là qui sont à moi, tu n'as qu'à faire une chose, c'est te prosterner devant moi. Le mot prosterner, en grec, c'est proskuneo. Ça veut dire signe de révérence, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. Et dans le Nouveau Testament, par agenouillement ou par prosternation, c'est rendre hommage. C'est aussi marquer son obéissance quelque part en public. Dans tout le monde, le fait de s'agenouiller devant une personne, c'est marquer le fait eh bien, que je le reconnais comme maître. Je le reconnais comme, je reconnais que là maintenant, je vais lui obéir. Autrement dit, si Jésus s'était prosterné, Jésus aurait marqué son obéissance, son dévouement à l'égard de Satan, ce qui signifie qu'il rejette complètement Dieu et son autorité et sa volonté. Mais Jésus dira, personne, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et Jésus rajoutera aussi que le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Jésus aurait pu, pouvait en tout cas accepter l'offre de Satan, et Satan lui aurait donné tous les royaumes. Il avait la possibilité de le faire. Il a la possibilité de lui faire, de lui accorder tout ça. Parce que Satan, la Bible nous dit qu'il est le prince de ce monde. C'est Jean qui dira dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. » Autrement dit, de Satan. Si cela avait été le cas, Jésus serait complètement sorti du plan de Dieu et n'aurait pas été jusqu'à la croix. Et nous ne serions pas là. Mais Jésus lui résista une seconde fois en s'appuyant sur quoi ? Sur la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. « Retire-toi, Satan, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Amen. » Jésus fait référence ici au peuple juif dans le désert qui, à un moment donné, vont fabriquer, vous savez, un veau d'or et ils vont l'adorer. Ils vont remplacer Dieu par un veau d'or. L'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, et des veaux d'or, vous savez, il en existe de toutes formes aujourd'hui dans notre société. Et si l'on ne veille pas à nos regards, si l'on ne veille pas à nos pensées, on peut très vite basculer et tomber dans le péché. Tout comme le diable a voulu impressionner Jésus, beaucoup de choses dans ce monde peuvent aussi nous pousser à être impressionnés et quelque part, eh bien, à convoiter, à nourrir une soif de posséder, malsaine. Nos yeux sont en action permanente dans la journée, sur nos téléphones, et aller savoir ce que l'on regarde comme contenu. Dans la rue, à l'église, on peut facilement tomber, vous savez, dans ce que on dit les regards baladeurs, à l'égard de personnes, mais aussi à l'égard de biens matériels, de richesses, etc. Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23, « Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Si donc ta lumière intérieure n'est qu'obscurité, dans quelles profondes ténèbres tu te trouveras ?» Il est important pour nous, et c'est Jésus qui le rappelle, qui le dit, qui nous enseigne, eh bien, de faire attention à nos yeux. Et combien nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est, enfin, je ne sais pas si je reprends il y a une trentaine d'années, on n'est plus du tout dans la même société. On a un accès permanent, facile aujourd'hui, sur tout ce qui est réseaux sociaux, et ça va à une vitesse phénoménale, eh bien, et que nos yeux eh bien, sont, quelque part, voient ce qui se passe. Voilà. Et parfois, je dirais qu'il faut savoir couper net avec des choses qui peuvent nous tenter. Parfois, on se dit, non, je vais résister, je vais y arriver, et puis au final, on n'arrive pas. Parce que quand on s'appuie sur ses propres forces, ça ne marche pas. On ne peut pas rivaliser avec la tentation. Mais parfois, il faut couper, ça veut dire qu'il faut arrêter. Moi, j'aime bien, il y a un exemple qu'on voit dans, vous savez, David, il va amener à un moment donné sur le champ de bataille, quand Goliath va affronter tout le peuple d'Israël, son père va l'envoyer pour emmener du fromage et du pain, je crois, à ses frères sur le champ de bataille. Et quand il va arriver, ses frères vont le mépriser, ou son frère, je ne sais plus si c'est ses frères ou son frère. En tout cas, hein, ses frères vont le mépriser. Ils vont lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu retournes, en gros, dans tes bergers, qu'est-ce que tu es venu faire pour... Lui, il était simplement venu pour donner à manger, écouter son père. Et en fait, j'aime bien, faudrait que vous lisiez, je n'ai pas la référence, mais ça m'a fait penser à ça. En fait, David, il ne va pas choisir de répondre à son frère. Le texte, et c'est écrit dans le texte, il se retourna. Autrement dit, il n'a pas cherché eh bien, à se confronter à son frère, mais il s'est retourné. Il a coupé. Il savait que là, c'était une tentation pour lui peut-être de rentrer dans une confrontation et peut-être le pousser à avoir des mauvaises paroles. Il décida simplement de se tourner et il continua à parler à Goliath. Enfin, en tout cas, au peuple pour dire, mais c'est qui ce Goliath? C'est qui celui-là qui ose défier le peuple d'Israël? Et parfois, dans nos vies, eh bien, il est important, nécessaire même des fois, de couper net. Ça se trouve, c'est peut-être une application que tu as sur ton téléphone qui est là. Tu te dis, ouais, c'est juste pour regarder. Et au final, quand tu regardes, tu tombes sur des contenus qui sont pas forcément bien. Eh bien, moi, je t'encourage ce soir, si c'est ce que tu vis, c'est que tu la désinstalles, cette application. Tout simplement. C'est pour te préserver. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la tentation. La tentation aura toujours raison. C'est comme, vous savez, en informatique, on parle de phishing. Vous tombez sur une page, par exemple la page de votre banque, de votre assurance, etc. Tout est nickel. Vous dites, mais c'est bon, c'est sûr, c'est le site de ma banque. Et là, vous entrez vos coordonnées. Et puis là, vous voyez qu'il y a un problème. En fait, c'est la tentation. Des fois, ça paraît bien, ça paraît comme le vrai. Mais en fait, c'est faux. Et le but, c'est simplement de vous arnaquer. Et parfois, la tentation, eh bien, elle agit comme ça. Ça paraît bon, mais en fait, c'est pourri à l'intérieur. Et ça nous amène à quoi? Au péché. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors, tout comme Jésus a rejeté l'offre de Satan, nous aussi, nous sommes invités à être encouragés, à rejeter tout ce qui, dans ce monde, a l'allure de bonnes choses attirantes. Et je parle surtout de ces choses-là qui peuvent nous conduire à vraiment au péché. Et à cela, il y a des bonnes choses qu'on peut avoir dans ce monde. Mais veillons à ce que rien ne prenne surtout la place de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Que notre adoration, que notre louange revienne toujours à Dieu seul pour et à jamais. Amen. Troisième tentation, l'orgueil de la vie. Le texte nous dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça donc au sommet du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. D'une montagne, on arrive maintenant au sommet du temple à Jérusalem. Et Satan ici cite, il cite pas n'importe quoi, Satan. Il cite un psaume, le psaume 91, et notamment les versets 10 et 12. Vous connaissez le psaume 91 ? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ma mère nous a fait apprendre par cœur. Psaume 23, psaume 91, voilà, c'était les. Et le texte nous dit : aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Satan, ici, il connaît la parole. Et je crois même qu'il la connaît mieux que nous. Le problème, c'est que Satan, lui, n'interprète pas la parole comme elle doit être interprétée. Il ne l'interprète pas correctement. Il va l'utiliser pour parvenir à ses fins. Et ici, il l'utilise pour faire quoi ? Eh bien, pour faire détourner Jésus du plan de Dieu. Il tord la vérité de la parole de Dieu en sortant un texte, un verset de son contexte. Les anges existent, ça on ne peut pas le nier, ce sont des créatures de Dieu qui sont au service exclusif de Dieu. Hébreux chapitre 13, versets 1 et 2, vous connaissez certainement ce passage, mais il nous est dit « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir héberger ou loger des anges chez eux. » Donc les anges existent. Et si Dieu décide ou ordonne à des anges de venir à notre secours, ils le font. Pourquoi ? Parce qu'ils obéissent et ils sont soumis à la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas se servir de cette promesse pour demander la protection de Dieu dans des situations où nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Ici, Satan demande à Jésus de se jeter dans le vide du haut du temple, autrement dit, de mettre fin à sa vie. Or, Dieu est celui qui donne la vie. Et voyez-vous, Satan, il sait très bien, parce que c'est lui-même une créature de Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu, malheureusement. Mais cette nouvelle tentative, cette nouvelle tentation correspond, eh bien, quelque part à l'orgueil de la vie. Et ça fait encore une fois écho, eh bien, à ce que Jean lui dira, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, premièrement, la convoitise des yeux est là. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et pour reprendre l'exemple du jardin d'Éden avec Ève et Adam, dans Genèse 3, verset 6, il nous est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et les conséquences, on les connaît. C'est le péché. Mais gloire à Dieu parce que Jésus est venu. Et grâce à, eh bien, à l'obéissance de Jésus, aujourd'hui, nous sommes là. Nous qui avons placé notre foi en Jésus. La réponse de Jésus à Satan, c'est encore une fois, eh bien, une parole qui tire sa source dans les Écritures. Jésus lui dira, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. C'est un des commandements que Moïse va donner au peuple d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 6, au verset 16, il va leur dire, vous ne provoquerez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. En fait, ils sont arrivés à un moment donné dans un endroit où ils se sont installés, il n'y avait pas d'eau. Ils vont se plaindre, ils vont dire à Moïse, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il y en a même qui vont dire, mais nous, on veut retourner en Égypte. Pardon. Et là, ils vont se plaindre, ils vont murmurer et ils vont quelque part eh bien, forcer Moïse en lui disant, mais est-ce que l'Éternel est toujours avec nous ? Et c'est comme ça que eh bien, Dieu va donc, Moïse va s'adresser à Dieu et puis... Dieu donc va donner des commandes, enfin va donner à Moïse l'ordre de taper sur, enfin, avec son bâton pardon sur le rocher et de l'eau va en sortir. Ils ont cherché quelque part à forcer Dieu. Lui Jésus par rapport à cette situation dans le désert, il est confiant que son Père est avec lui et il n'a pas tenté Dieu pour son propre profit. Il n'a pas eu besoin quelque part de prouver à Satan. Eh bien, qu'il est le Messie. Et de même, nous ne pouvons pas éprouver Dieu en exigeant de lui des signes miraculeux si ce n'est pas dans sa volonté. Cette tentation de Satan à l'égard de Jésus est un avertissement pour nous. Méfions-nous aussi de ce que l'on peut entendre de certaines personnes qui se servent des Écritures pour servir leurs propres intérêts et non celui du royaume de Dieu. N'hésitons pas à chercher par nous-mêmes le contexte des passages, à faire un peu comme les chrétiens de Bérée, qui écoutait, mais qui vérifiait dans la parole. Et bien entendu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons ce devoir en tant que chrétiens. de vérifier aussi ce que nous entendons, ce que nous écoutons au travers de la parole de Dieu. Lisons la Bible, méditons-la, que la parole de Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Amen. En conclusion, donc, le dernier verset, il nous est dit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui à un moment favorable. » Il jette l'éponge. Le diable jette l'éponge. Il voit bien que là, il n'a aucune chance. Donc, il s'en va. Mais le texte nous dit qu'il n'a pas complètement abandonné. Par ces tentations, Jésus nous montre comment la parole de Dieu constitue une arme importante permettant de triompher des épreuves de Satan et de résister aux tentations. Et la Bible nous montre effectivement que Satan n'abandonne pas. Il va revenir par la bouche de Pierre qui va inciter Jésus à renoncer à la croix. Souvenez de ce passage, Jésus va dire « Arrière de moi, Satan !» Il va dire ça à Pierre. Il va revenir aussi dans le jardin de Gethsémané où Jésus va vivre un moment extrême d'angoisse. Les disciples de Jésus vont s'endormir au lieu de prier avec lui. Et Pierre, justement, qui était présent dans ce jardin-là, il va dire des années plus tard, une fois qu'il aura été restauré, remis dans son... que Jésus l'aura pardonné par rapport à ce qu'il va faire, ce qu'il va trahir Jésus, des années plus tard, on lit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, pardon, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Lui qui n'avait pas réussi à rester éveillé dans la prière, s'était endormi, à ce moment-là, il encourage des chrétiens pour leur dire que, attention, le diable rôde comme un lion rugissant. Enfin, à la croix, on entend des paroles, des personnes vont dire à Jésus, mais sauve-toi toi-même, descends de la croix. Mais Jésus n'a jamais succombé, même à ces paroles-là. Il a été jusqu'au bout, à la croix, pour dire, tout est accompli. Le sacrifice parfait a été réalisé au travers de la vie de Jésus. Et Jésus avait donc pour objectif de faire non seulement la volonté de Dieu, mais par amour pour nous, il a subi tout ce qu'il a dû traverser, de son baptême jusqu'à la croix. Et toutes les étapes, notamment donc son passage dans le désert, étaient nécessaires pour que nous puissions avoir la rédemption de nos péchés, de nos fautes, et être appelés enfants de Dieu. Nous faisons face à de nombreuses tentations à cause de la faiblesse naturelle de notre chair, mais nous avons un Dieu qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Parce que Dieu prépare toujours un moyen d'en sortir. Amen. C'est Paul qui dira dans 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. » Et ça, c'est une promesse que nous devons garder dans notre cœur. Nous pouvons donc être victorieux, remercier le Seigneur de nous avoir délivrés de la tentation. L'expérience de Jésus dans le désert nous aide non seulement à comprendre ces tentations qui peuvent nous empêcher de servir Dieu, mais aussi d'accomplir les projets que Dieu a formés pour chacune de nos vies. L'importance ici est d'avoir une connaissance de la parole de Dieu. Et Jésus comprend parfaitement ce que nous vivons parce qu'il était pleinement homme pour nous sauver. Amen. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Seigneur, merci pour ce moment passé sous ton saint regard. Merci pour ta parole encore, Seigneur, qui nous montre et qui nous réajuste, Seigneur, mon Dieu, sur notre marche, de savoir que tu es celui qui a été tenté par toutes choses et tu es la meilleure personne qui peut nous comprendre aujourd'hui. Et nous voulons encore placer, Seigneur, notre regard sur toi, notre foi en toi, afin que tu nous accompagnes encore sur ce chemin, Seigneur, mon Dieu, de vie. Et nous voulons te laisser encore toute la place dans nos cœurs. Viens, Seigneur mon Dieu, prendre toute la place, Seigneur mon Dieu, même dans nos défis, dans nos difficultés. Et que vraiment, Seigneur, notre foi dans ces moments-là puisse grandir avec toi. Merci vraiment pour cette relation que nous pouvons avoir, ce que tu nous as réconciliés, Seigneur mon Dieu, avec le Père. Et à toi seul soit toute la gloire, Jésus. Amen.